This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Salut l'équipe, à ce jour, il n'existe toujours pas de trophée du meilleur retour. Mais si je devais en attribuer un, j'hésiterais entre le retour de manivelle pleine gueule de Puff Daddy ou le retour en grâce de Kyrie Irving. Bon non, quand même sur Kyrie, c'est bien plus sympa. Non pas que j'avais oublié son talent et sa classe inimitable, mais depuis son retour de Cleveland, Kyrie s'était éparpillé, désorienté de son art premier. Mais cette saison, quand on reparle de lui, on parle uniquement du basketteur et ça, ça fait kiffer. Avec le recul, la traversée du désert fut quand même bien dégueulasse. Aussi dégueulasse que l'eau de la Seine. Et les choses sont finalement allées très vite pour Kyrie. De petit frère de LeBron James à quasi rebut de la Ligue, le virage de l'émancipation ne s'est pas vraiment passé comme je l'imaginais. Grande diva chez les Celtics, déserteur et activiste maladroit chez les Nets, j'ai même cru à un moment donné Kyrie Irving perdu pour le basket. Mais heureusement, Kyrie est revenu à ce qu'il sait faire de mieux, détruire des défenses. Et comme à la belle époque avec LeBron, il n'est jamais autant épanoui que quand il joue aux côtés d'une star assumée. Et avec Luka, il peut même rêver de rejouer pourquoi pas un jour des finales NBA, là où jadis, il avait tant brillé. Kyrie a retrouvé un endroit où il se sent bien, une maison où on l'aime, une cubane au fond du Texas, comme dirait Francis Cabrel. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first des shows. Nous ne sommes plus qu'à une petite semaine de la fin de la saison régulière. Qui dit fin de saison régulière, dit play-in, dit play-off, dit meilleur moment de la saison. Il fait bon ce matin, il fait bon aujourd'hui. Il y a comme un flottement de bonheur un petit peu chez la First Team. Alors ce jeudi, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pas pour tout le monde. Comment ça va Thomas Dufan?
Ça va, j'ai mal dormi. Je ne vais pas vous cacher que j'ai passé une drôle de soirée hier soir entre joie et peine, entre tristesse et déception.
Joie et peine ou joie et paix?
Que peine, malheureusement. Non, ça va sinon, je vais parler de basket aujourd'hui, et donc ça va me donner le sourire.
Arthur, ça va mieux toi, ou comme Thomas un peu?
Ouais, ça va, moi j'ai regardé que la fin du match, malheureusement j'avais des circonstances, et puis écoute, un peu dégoûté, mais c'est comme ça.
Est-ce que tu peux ouvrir ta chemise, s'il te plaît?
Non, c'est bon, ça va.
S'il te plaît, mais si, parce que...
Ouais, il est torse nu, j'espère.
Montre-nous.
Qu'est-ce que t'as en dessous? Attends,
je me suis pris un coup de pression de la régie pour que je mette ma veste parce que les couleurs ça passait pas, mais j'avais le maillot du Sénégal.
Voilà.
C'est tout.
Et ça nous permet de faire une transition. Sénégal, possiblement on arrive.
Nous voilà.
On vous en dira plus, mais il y a possibilité que la First Team se déplace très rapidement une petite semaine au Sénégal pour aller voir des choses et du basket. Ça c'est la First Team qu'on aime. On a quelques annonces aujourd'hui à vous faire comme d'habitude. Vous le savez, je vais vous le répéter tout le temps parce que ça marche très fort. Les podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes et donc n'hésitez pas à écouter ça dans la voiture. Ça marche très bien, les résultats sont top et on est heureux de pouvoir vous offrir toutes les émissions. Je dis bien toutes les émissions qui sont sur la chaîne First Team, sur le YouTube ou sur le Twitch. Thomas, on a une autre annonce, c'est qu'on est en fin de saison. Qui dit fin de saison dit Howard, pas Gordon Howard. et nos gars qui nous regardent, qui nous suivent, vont pouvoir voter.
Ouais, pour la première fois, on a décidé de remettre des trophées First Team de fin de saison individuels, entre autres. Donc, à partir de maintenant, d'ailleurs, certains ont peut-être déjà voté parce qu'à partir de midi aujourd'hui, ont été diffusés sur nos réseaux sociaux les First Team Awards. Il y a un Google Form, tout simplement. Vous entrez votre petit mail et vous votez. Et à la fin, je pense un lundi, peut-être dans une semaine, parce que vous n'avez qu'une semaine pour pouvoir voter, on remettra le MVP First Team, etc. etc. Il y a quelques petites fantaisies, entre guillemets, le joueur le plus kiffant, le joueur le plus décevant de la saison. On vous a aussi demandé de mettre une note sur 10 pour cette saison, parce que nous, on a eu la sensation que c'était une bête de saison. Il s'est passé beaucoup de choses du début à la fin. Les Clippers, on en parlait tout à l'heure, c'était la première semaine de la NBA, de transfert de James Harden. Donc, il s'est passé plein de trucs. Très curieux de savoir si vous avez kiffé autant que nous cette saison. Donc, vous pouvez répondre à ce questionnaire.
Tu sais, hier, vous m'avez posé une question en me disant qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de marrant. Et j'ai rien trouvé et je viens de trouver quelque chose trop tard.
Vas-y.
Ça aurait été délire le meilleur de chez First Team.
Mais ça y est, on a déjà vu ça, on a déjà pensé, Erwan.
Ah bon ?
On y a déjà pensé, t'inquiète pas, et puis on l'a enlevé parce qu'on avait peur que tu gagnes. Au vu du boulard que t'as en ce moment, on voulait quand même tempérer un petit peu.
Pas le droit d'être en confiance dans cette équipe en fait. Ouais.
Il y a la frontière entre boulard et confiance est très mince.
Jaloux !
J'avoue.
Le sommaire, parce qu'on est là quand même pour être un petit peu sérieux malgré les grosses têtes qu'on est en train de prendre. Et on ne pense pas à Philippe Bouvard, évidemment. Les grosses têtes, on va aller dans les news. On va faire un point sur la conférence Ouest, la conférence Est, parce qu'entre les avantages du terrain, la première place, le play-in, il se passe beaucoup de choses. On prendra le temps sur chaque conférence de faire un petit peu un point à une petite semaine de la fin de cette saison régulière. On prendra des news de Giannis Antetokounmpo. Ça va un petit peu mieux et on ira sur Jrue Holiday qui vient de signer un joli petit contrat. Bravo, bon Jrue. Bravo, bonjour. Le débat cette semaine sur les Sixers, le retour de Joel Embiid forcément change un petit peu les horizons et on va se demander que peuvent espérer les Sixers. Peuvent-ils même rejoindre, pourquoi pas, les finales? Moi, c'est quelque chose auquel je croyais quand Embiid était au top. Il est revenu depuis. Ça a l'air d'aller plutôt bien pour Jojo et pour les Sixers. Donc, on essaiera de se demander et on vous a demandé à vous aussi jusqu'où peuvent aller les Sixers cette année. Une palette cette semaine, Thomas, une super palette sur
OKC.
OKC et les pick and roll. Comment OKC a un petit peu rénové, on n'a pas peur
modernisé.
Des mots, modernisé un petit peu l'utilisation du pick and roll. On verra qu'il y a différentes entrées, plusieurs options. Et chaque fois, par contre, on retrouve aussi des mouvements assez similaires. Très intéressante la palette cette semaine, mais comme chaque semaine, parce que Thomas nous concocte chaque fois le meilleur tactique. Et puis derrière, on finira par, par mon moment, mais surtout, il y a Arthur, t'étais là il y a pas longtemps, t'as pris une énorme branlée la dernière fois.
L'humilité, Erwan, humilité.
Attends, mais est-ce que les gens regardent First Team pour qu'on dise et on finira avec un quiz où le meilleur gagne? On s'en branle de ça. Nous, on veut se la mettre, on veut se chambrer, on veut se dire je veux du meilleur que toi. Voilà ce qu'on veut.
Les enfants,
pardon. Mais les gens, ils veulent qu'on se chambre, ils veulent que Arthur il reprenne une sauce sur les facs ou alors qu'il m'en mette une. Et ils me disent, tu vois, ferme ta bouche. Putain.
Allez, on va faire une cagnotte. Hein.
Les gens, arrêtez un peu, là. Allez, les news. Allez, on attaque tout de suite avec la conférence Ouest. On va regarder le tableau de cette conférence Ouest. On voit que tout est très serré. On va le faire en trois points. La lutte pour la première place. Hier soir, il y avait un match très important entre les Nuggets et les Timberwolves. C'est les Nuggets qui se sont imposés et qui, pour l'instant, prennent seuls la tête donc de la conférence Ouest. On fera aussi un point sur la lutte pour l'avantage du terrain. Ça se passe entre les Clippers et les Mavs. Et il y a eu des résultats intéressants. Et puis, évidemment, la lutte au play-in. Thomas, on va commencer par le haut de ce classement. Les Nuggets, hier, ont fait le taf à domicile avec un énorme Nikola Jokic et une victoire importante pour pas sécuriser mais en tout cas prendre une belle option pour cette première place à l'Ouest.
Ouais, exceptionnel match. Je vous invite tous à aller le mater en replay si vous l'avez pas vu sur le League Pass, un duel pré-playoff. On n'était pas loin en termes d'ambiance, d'intensité et de combat tactique aussi. Il n'y avait pas Karl Anthony Towns, vous le savez, qui est sur le point de revenir. Oui, t'as raison de dire que Nikola Jokic a été phénoménal. 41 points, 11 rebonds, 7 passes de mémoire et surtout 16 sur 20 au tir. Il fait 16 sur 20 au tir et 7 sur 12 au lancer franc, le gars. C'est-à-dire qu'il a raté plus de lancer franc dans le match que de tir en prenant 20. C'est incroyable. Énorme avantage psychologique sur les Wolves. Tu sens qu'il y a une équipe qui est prête pour ça et qui va finir première. Moi, clairement, je pense que ça va finir comme ça. Qui va avoir l'avantage du terrain sur toute la conférence Ouest. Et ce sera évidemment, un facteur très important dans les joutes qui vont arriver, dans les jours qui vont arriver.
Arthur, quand on voit le match d'hier et puis les annonces qui ont été faites il y a quelques semaines de la part de Nuggets pour dire nous, on veut la première place et finalement, ils vont l'avoir assez logiquement. Ça y est, ils sont en mode playoff, les champions en titre.
Ouais, ils sont en mode playoff. Je pense qu'ils connaissent le chemin. Ils savent, de par leur expérience de l'année dernière, que jouer à domicile, avoir l'avantage du terrain sur tous les playoffs à l'Ouest, ça leur donne un sacré avantage. Donc voilà, là il reste 2-3 matchs. Quand t'as une victoire nette et sèche d'avance sur tout le monde, c'est énorme. Donc j'imagine pas les voir lâcher. Et puis on sait qu'avec les quelques jours qu'il y a pour les play-in, ils pourront se reposer. Donc ils peuvent prendre ce risque-là.
Ils jouent à San Antonio et à Memphis.
Ouais. Ça devrait aller.
Ils ont plutôt
ça devrait le faire.
Ils ont plutôt un calendrier avantageux. Il y a aussi une lutte un petit peu à distance pour la deuxième place. Hier, donc, les Timberwolves ont perdu, même s'ils ont été encore une fois très, très dignes, voire
plus.
Ils font kiffer la blessure de Karl Anthony Towns.
Le problème, c'est que Naz Reid, il y a eu un moment donné, il a cru qu'il était un autre joueur et le basket l'a rappelé à ses bons droits et à ses devoirs, surtout, faut bosser, gros.
Le basket rappelle souvent les gens qui se prennent pour des joueurs qui ne sont pas.
Il y a eu un moment donné où.
C'est pour ça qu'on adore aussi ce sport. OKC, eux, se sont imposés face à des Spurs démunis qui m'ont appelé hier soir pour jouer, mais il était un peu trop tard, j'avais pas le temps de prendre l'avion.
48 heures pour prendre l'avion, moi.
Ouais, ça faisait un peu chaud, je fais appeler moi avant, les gars. Donc voilà, victoire large et sans bravure du Thunder. Il n'y a rien à dire sur le match. Par contre, c'est une victoire importante puisque du coup, ils sont à égalité maintenant avec les Timberwolves. Les deux derniers matchs qui restent vont être très importants pour les Wolves et pour le Thunder puisque être deuxième, c'est quand même aussi avoir l'avantage du terrain en demi-finale de conf.
Très important. Il y a une petite tendance pour les Wolves hein, puisque le Thunder va recevoir Milwaukee et recevoir Dallas. Donc, à voir si Milwaukee lâche pas des matchs. Bon, ils n'ont pas l'air d'être dans cette mouvance-là, même avec l'absence de Yanis, et contre Dallas, hein, qui se bat aussi pour essayer de grappiller une place pour avoir l'avantage du terrain en premier tour, qui sera contre les Clippers. Donc, ça va être passionnant. Quoi qu'il arrive, c'est pour les Wolves et pour le Thunder une saison méga réussie, quelles que soient les blessures, les moments, les machins, il y a beaucoup de certitudes. Voilà, il faut évidemment arriver à être deuxième ou troisième puisque tu sais qui tu vas affronter quand t'es deuxième et non quand t'es deuxième ou troisième d'ailleurs aussi pareil. Bon voilà, très bien, bon, ça va être passionnant à suivre en tout cas, et surtout on va pouvoir se projeter a priori sur un deuxième tour si les deux équipes gagnent. Et là, ça va être aussi régalable.
Avant de se projeter sur un deuxième tour, nous, on va se projeter aussi sur un premier tour à l'Ouest qui semble se dessiner entre les Mavs et entre les Clippers. Mais qui aura l'avantage du terrain ? Pour l'instant, c'est les Clippers. Mais hier soir, il y a eu deux résultats importants. Les Clippers qui ont perdu à domicile, où il n'y avait aucune de leurs stars, mais ils ont perdu à domicile face aux Suns. Et dans le même temps, les Mavs sont allés s'imposer à Miami avec encore une fois un Kyrie et un Luka qui ont fait le taf. Il n'y a plus qu'un match d'écart entre les deux. Bon, je pense que ça va être vraiment ça le premier tour. Maintenant, est-ce qu'on pense que les Mavs...
C'est officiel, c'est le premier tour.
D'accord. Est-ce que les Mavs peuvent aller gratter l'avantage du terrain ?
Bah, le truc, c'est que sur les fins de saison, on ne sait pas exactement comment est-ce que les rosters, comment est-ce que les coachs, ils abordent ça. Il y a des pépins physiques dont on n'est peut-être pas au courant. Donc, en fait, ça va être la surprise lorsqu'on verra les temps de jeu et lorsqu'on verra les 5 alignés par les coachs. Donc, voilà, après, ça reste quand même hyper important. Et j'ai l'impression, cette année, plus que toutes les autres années, à l'Est et à l'Ouest, que il y a une homogénéité à peu près au niveau de toutes les équipes dans les deux conférences sur les équipes à peu près playoffables, un petit peu moins à l'Est. Et que, en fait, l'avantage du terrain, ça va faire partie vraiment des gros avantages et des choses qui vont pouvoir différencier tant les équipes sont à peu près au même niveau. Donc j'espère que tout le monde va pouvoir être en forme pour qu'on puisse avoir une vraie course au playoff et surtout qu'on puisse avoir des bêtes de playoff parce que le Clippers Mavs il est lourd.
Deux, trois infos, les Clippers reçoivent le Jazz et les Rockets pour les deux derniers matchs. Dallas eux donc reçoivent Détroit et vont à OKC, on l'a dit tout à l'heure. C'est la troisième confrontation en playoff en 5 ans entre les Mavs et les Clippers, avec parfois des vainqueurs, parfois d'autres, et toujours un Luka exceptionnel. Donc il y a clairement une rivalité qui s'installe. On rêve tous du Lakers-Clippers qu'on n'aura peut-être jamais avec ces effectifs-là, mais pour le coup, face à Luka, ça nous régale.
Quoi qu'il arrive, ça fera des déçus. Hein. Dallas qui sort au premier tour, ça va faire des déçus.
Ah ouais,
les Clippers qui sortent au premier tour, ça va faire des déçus, voire des dégâts.
Non, mais après, la conférence, ça a été terrible. Hein. Ah ouais, les Suns, les Warriors.
Non, c'est clair, c'est la guerre. Mais il va y avoir des grosses remises en question sur des projets. Oui, voilà. Dans tous les cas, alors qu'en soi, les équipes, elles ont plutôt fait des bêtes de saison quand tu vois Dallas. Exactement. Mais en fait, il y a des projets qui vont être remis en question et puis ça va être sympa.
T'as raison que c'est un projet qui est intéressant où tu te fais sortir en demi-finale au 7e match par Denver. Bon, tu te fais sortir au premier tour quand t'es soit les Mavs, soit les Sixers, soit les Clippers, soit les Suns, soit les Lakers, soit les Kings, soit les Wolves ou soit le Thunder. Mais t'imagines la remise en question que tu dois faire pour essayer de grappiller un tour ou deux pour la saison après. Mais ça va être très cool à suivre.
Tu vois, ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que la remise en cause, elle serait plus importante pour Dallas et pour les Clippers.
Et les Suns.
Et les Suns, parce que là on parlait d'eux, par exemple les Wolves ou le Thunder. Parce que c'est plus jeunes, ils sont en train de progresser. Au final, ce qu'on attendait d'eux, c'était une bête de saison, chose qu'ils ont faite. Quand t'es à 55 victoires, ça reste stylé.
Mais pour le groupe, t'es quand même hyper déçu si tu passes au premier tour.
Si on doit faire une hiérarchie d'équipe qui perd au premier tour et qui doit repenser complètement son projet, moi je pense que si Dallas, ils doivent repenser leur projet, ça sera avec un coach. Ouais. Je pense que si les Clippers doivent repenser leur projet, ça sera plus qu'avec un coach.
Ouais. Et les Suns, c'est pareil du coup.
Et les Suns, c'est pareil
Clippers
aussi.
Les Clippers, c'est Suns. Voilà. Au vu de la maturité de leurs joueurs, t'as raison.
Exactement. Donc bref, ça sera super intéressant. Justement, on parle des Suns, les gars, mais qui sont aussi en lutte pour le play-in, pas play-in. Justement, hier soir, ils sont allés gagner. Donc, victoire importante après la vilaine, très vilaine prestation la veille à domicile face aux Clippers. Ils sont toujours en play-in, les Suns, avec 47 victoires pour 33 défaites. Ils vont aller les chercher, les Pelicans, les gars, ou pas?
Je vous donne le calendrier si vous voulez, quand même c'est plus facile pour se projeter. Les Pelicans eux vont jouer donc contre les Warriors, ils ont 3 matchs encore. Non, les Pelicans, ils vont à Sacramento, ils vont à San Francisco et reçoivent les Lakers. trois matchs encore à jouer.
Ils jouent les trois équipes de play-in.
Tout à fait, c'est des confrontations directes. Et pour les Suns, eux, il leur reste deux matchs. Ils jouent contre les Kings et contre les Wolves.
Pas cadeau.
Exceptionnel. En fait, pour les Suns, bravo Adam. Pour les Suns, ça a déjà commencé, hein, les play-in. Hein.
Non, mais clairement.
Un petit mot sur tes Lakers, Thomas. On voit pour l'instant, on aurait un play-in Lakers-Warriors.
Oui.
Comment tu les sens, tes Lakers? Je te pose une question, mais tu vas y répondre différemment. Voilà.
C'est deux équipes expérimentées, ça, il n'y a pas de doute. Moi, je dis toujours que quand il y a LeBron et Anthony Davis dans une équipe et qu'ils sont à 100%, sur un seul match, ils ne peuvent pas perdre. On l'a vu au In-Season Tournament. On l'a vu déjà aussi lors des différents play-in. Je ne vais pas changer mon avis là-dessus. Clairement, je pense que s'il y a un match entre les deux, les Lakers gagneraient.
Bastille, je suis en train de prendre des petites notes pour le débat de tout à l'heure. Ça va, merde. Tu les vois, toi Arthur, tu valides Thomas, tu vois les Lakers passer les Warriors si jamais ils se retrouvent en play-in?
Elle est pas facile parce que oui, effectivement, les arguments ils se tiennent quand t'as Anthony Davis et LeBron sur un match coup près, ouais, mais sauf que en face, ouais, t'as les Warriors et sur un match, Stephen Curry il met 13-3 points, Klay Thompson il en met 6 au premier quart-temps.
Louis Sifker aussi peut en mettre.
Mais ce que je veux dire, tu sais, un match de ouf d'adresse, comme il s'est passé il y a quelques jours, s'il y a bien une équipe qui peut battre tout le monde sur un match, c'est bien les Warriors.
Oui,
donc voilà.
Mais il y a eu des play-in avant, les Lakers sont passés. Il y a eu une série play-off l'année dernière, les Lakers sont passés. Oui. C'est purement factuel. Hein.
L'histoire va dans ton sens, voilà. Mais ce que je te dis,
Dans leur sens, moi personnellement, je m'en bats les couilles.
Dans le sens des Lakers. Mais voilà.
C'est vrai. Hop, 3 euros dans la
cagnotte. Bref, donc non, 50-50 pour moi.
Mais moi je suis d'accord.
Merci, un bel prise de position en tout cas.
Non mais je le comprends. Hier j'en parlais dans le clutch, mais comme ça intéresse pas les mecs qui produisent cette émission, on me met pas les extraits. Moi je pense vraiment que si à ce match-là que j'ai vraiment envie de voir, j'ai envie de le voir, mais je pense vraiment que ça va se jouer pour moi sur les trois dernières minutes, tu vois. Il y aura un money time et qu'après
En tout cas, il est bien l'émission. Hein. J'espère que dans le débat il y aura des oui et des non parce que.
Ah d'accord, mais en fait tu veux qu'on ait des avis kata juste.
Non, moi j'ai envie que vous me disiez tous les deux là aujourd'hui qui gagne s'il y a un match en play-in. Dites-moi,
je peux pas te dire. Je pense que les Lakers en soi ça reste une meilleure équipe, mais que les deux autres fous, surtout l'autre fou, il est capable de faire comme le match 7 contre les Kings et mettre 50 points. Voilà, c'est
Erwan Arthur, dites-moi qui va gagner.
J'ai une question. Est-ce que le fait que ça peut être potentiellement le dernier run de Klay Thompson avec les Warriors, est-ce que ça peut pas donner un supplément d'âme à cette équipe?
Ça peut.
Non, je pense que c'est des gars qui veulent gagner. Dans tous les cas, ils connaissent, et le fait que ça soit possiblement le dernier match, le dernier run, ça change pas grand-chose. Moi, je pense juste que ces gars-là, ils veulent gagner.
Alors, je vais me mouiller, et au vu de ce que proposent les Warriors ces derniers temps, et d'avoir un collectif retrouvé et marqué avec une adresse incroyable, il y a eu ce match face aux Lakers, mais dernièrement, en général, ils remettent dedans. S'il y a Lakers-Warriors, pour moi, les Warriors vont passer dans un money time. Voilà. Ça te va, Thomas?
J'ai entendu quelqu'un qui prend position.
Les Lakers vont gagner.
Voilà, très bien. Voilà. Thomas est content. On peut passer à la suite. Ouf. Et la suite, c'est la conférence Est. On va voir le tableau où là, les choses sont un petit peu plus claires que dans la conférence Ouest. Les Celtics sont premiers depuis bien longtemps. Les Bucks et les Knicks, donc deuxième et troisième. Est-ce que les gars, les Knicks, on imagine aller chercher les Bucks? Mais non, on s'en fout.
Il y a deux victoires.
Il y a deux victoires d'écart, c'est quasiment fini. Les Knicks vont potentiellement finir troisième. Ça, c'est intéressant. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est par exemple le Magic. Le Magic qui peut avoir l'avantage du terrain en finissant en quatrième, mais qui peut aussi se retrouver en play-in parce que vous le voyez, avec les Sixers, il n'y a pas beaucoup d'écart. Alors, on est plutôt quoi? Quelle tendance on a en ce moment, les gars?
Sachant qu'il y a un Magic Sixers, Il y a un Magic Sixers qui se joue là, donc qui va absolument tout changer. Moi, j'ai envie que le Magic arrive à se qualifier dans le top 6. Mais vu la forme
des Pacers. Ça serait mérité au vu de la saison.
Mérité. Le problème, c'est que les Pacers, ce sont 3 victoires consécutives, que je vois pas le Magic gagner contre les Sixers, donc vraiment très inquiet. Magic 7e pour moi.
Arthur, tu partages cette inquiétude autour du Magic? Pas moi.
Non, je trouve que c'est une équipe qui avance sans pression. Ils sont plutôt sûrs de leur force. Ils ont pas énormément d'expérience, mais justement, ils jouent avec cette fougue-là. Donc, je les vois continuer et puis garder à peu près le même classement.
Ok, je vous donne les 4 derniers résultats quand même pour eux. Ils ont perdu contre les Bucks, c'était hier soir de 20 points, sans Giannis. Ils ont perdu contre les Rockets, elle a fait très mal celle-ci à Houston. Ils ont gagné contre les Bulls et ils ont perdu contre les Hornets le match d'avant.
Ouais, ils finissent un peu sur la jambe, je te l'accorde. Après, c'est une équipe, on a tendance à l'oublier, qui joue extrêmement dur. Comme je le disais hier chez Wina, comme c'est Orlando, que c'est la Floride, qu'ils ont des beaux maillots, un peu avec du bleu, on oublie. Mais en fait, c'est une équipe qui joue très très dur. C'est l'une des équipes qui joue le plus dur de NBA. Donc
ça les empêche pas d'avoir encaissé 117, 118 Après, et 124 points sur les 4 derniers matchs.
Il se finit sur la jambe, certes, mais en tout cas,
là,
ils ont...
Je parle de l'instant présent, et ça, c'est un truc qu'on pourra dire s'ils vont en play-off, enfin, quand ils seront en play-off, ou à la fin de la saison. Mais là, à l'heure actuelle, leur défense, elle est poreuse et ils souffrent.
En tout cas, le Orlando Sixers, il va vouloir son pesant
de
cacahuètes.
Ouais, de fou.
Il va vouloir son pesant de cacahuètes. Les Sixers, on va évidemment en parler tout à l'heure dans le débat. On va enchaîner avec deux petites news. Jrue Holiday, l'ancien des Bucks, qui est aujourd'hui chez les Celtics, qui a re-signé, tonton, à 33 ans, un joli petit contrat de 4 ans pour 135 millions d'euros. C'est le quatrième joueur de plus de 33 piges à signer plus de 100 millions. Il fait bon jouer en NBA quand même. Hein.
Oh la vache, incroyable, c'est clair.
Et il avait signé aux Bucks, on se rappelle avec l'image où Yanis le charrie, il avait signé un contrat à peu près pareil il y a 4 ans du coup.
Ouais, là,
donc
c'est 33,
son deuxième énorme gros contrat.
Juste avant la fin de sa carrière, donc il a décliné sa player option de 37 millions l'année prochaine. Là, c'est 33 millions par saison. Ça permet aux Celtics d'avoir un petit peu moins de charges à payer et surtout de garder leur 5 majeurs jusqu'à l'année prochaine. Le but, c'était vraiment ça, conserver leur ossature pour une deuxième année, éventuellement, s'ils ne sont pas champions. Et ou pour faire un doublé s'ils sont champions, pour le coup.
Exactement, la fenêtre. Toujours
la fameuse fenêtre.
Toujours anticiper les choses, ouais. Pas juste voir cette année, on est champion, pas champion, on verra cet été. Là, tu t'offres une fenêtre et en cas de désillusion, c'est toujours bien d'avoir une vision un petit peu plus à long terme, moyen terme en tout cas. Yanis Antetokounmpo, l'ancien coéquipier de Jrue Holiday, lui qui nous a fait un petit peu peur avec cette blessure au mollet, où il s'est écroulé un petit peu tout seul, finalement, ce n'est qu'une contracture, 1 à 2 semaines d'absence. On est rassurés, messieurs ?
Ah bah oui, on a eu peur au début du tendon d'Achille. Tu te rends compte, ça aurait été fin de saison, pas de TQO, ça aurait été une catastrophe, puisque tendon d'Achille, on met presque un an pour s'en remettre. C'est une bonne nouvelle. Alors c'est à la fois une bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle. La première info, c'est que le gars va pas pouvoir jouer, donc il va pouvoir se reposer, ça ok. La question qu'on pouvait se poser, c'est comment son équipe allait réagir. Bon bah hier, Bobby Portis apparemment, il a pris le numéro 34 et il a joué comme Yanis.
Il est grand Bobby Portis cette année, je trouve. Dans l'attitude, dans les stats quand il faut step up, mais je trouve que j'ai souvent dit que cette équipe cette année n'avait pas d'âme. Lui, par contre, il amène vraiment ça avec Pat Beverley, qui est très bon ces derniers temps et qui est mis dans le 5 majeur. Mais Bobby Portis, on a l'impression que c'est lui, en fait, la véritable âme de cette équipe.
Je dirais pas que c'est lui l'âme de l'équipe, mais en tout cas, c'est vrai qu'il laisse transpirer un petit peu toutes ses émotions, toute son expérience et tout ce dont tu parles. Il a hyper bien digéré le titre et en fait, il s'est inscrit dans ce projet des Bucks au global, justement, avec cette personnalité qui reste quand même atypique, ses gros yeux. Il joue un petit peu tout ça, il va toujours se battre et défendre ses coéquipiers. Donc oui, il fait plaisir. Et puis, c'est un joueur sur qui les Bucks peuvent se reposer. Donc quand Yanis n'est pas là, donc magnifique pour eux. Après, je pense pas qu'il faille qu'on attende énormément après sur le terrain, quoi.
Tant que ça, parce que sur le run où ils sont champions, il est en sortie de banc, il est très fort.
Il est précieux, bien sûr.
C'est tout à fait le genre de joueur autour de tes stars avec lequel tu as envie de construire.
Ah non, mais on est d'accord, voilà. Il est hyper important. Ce que je disais, je suis pas sûr que ce soit l'âme non plus de l'équipe.
Ouais, c'est pas leur Draymond Green, je le rejoins complètement.
Voilà, c'est plus ça.
C'est pas leur Draymond Green.
Draymond Green, il a une influence dans le jeu que n'a pas Bobby Portis. Mais par contre, je pense que vocalement, il a un truc d'autre.
Une grosse personnalité dans l'équipe, un leader.
Quand je dis l'âme, c'est vraiment au bout d'un moment le fait de parler. Cette année, c'est le seul avec qui j'ai vu des attitudes, qui j'ai vu un peu ramener les gens dans les huddles et un peu se sentir concerné par les choses.
Il est très apprécié par le public parce qu'il donne beaucoup au public et tout. Et puis quand il est bon comme ça, et puis la dernière fois, c'est qu'ils finissent bien quand même les Bucks. On était très inquiets lundi, on l'a dit. Là, ils ont gagné 2 matchs, dont celui contre les Celtics avec la blessure de Yanis. Ils finissent mieux, tout simplement.
Les Bucks, c'est les montagnes russes. Hein. En 2 jours, tu dis c'est fini, et puis là, ils reviennent. Puis
qu'est-ce
qu'ils font, où ils vont ? Écoute, il est temps que les playoffs commencent, comme ça on aura des réponses définitives un petit peu sur ces Bucks-là. Il y en a pour qui on n'a pas de réponse encore, où on se pose énormément de questions, c'est les Sixers. Qu'est-ce que peuvent espérer les Sixers ? Peuvent-ils, avec le retour de Joel Embiid, aller carrément jusqu'en finale NBA ? C'est notre débat. Il est de retour, pas Lisan El-Kaïb, hein, mais plutôt Joel Embiid. 6 victoires de suite pour les Sixers. 5 depuis le retour de Joel Embiid, qui lui n'a joué 4 matchs que sur les 5 derniers. Mais je vais rien vous apprendre, messieurs, le retour de Joel Embiid change complètement la vision de cette fin de saison côté Sixers.
C'est clair. Quand t'as le MVP en titre, le meilleur joueur de ton équipe, le meilleur joueur de la ligue, on peut en débattre, qui revient, évidemment, ça fait plaisir. Personnellement, je m'y attendais pas à son retour. Il n'y a pas énormément de communication autour de tout ça. Je pense que, comme ce que je disais tout à l'heure, par rapport au contexte actuel, le fait que la Ligue à l'Est soit très homogène en termes de niveau entre les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 places, ils vont arriver quand même avec pas énormément de pression, un petit peu moins de pression que s'ils avaient été 2e ou 3e. Et j'ai très souvent ici mis en avant les failles psychologiques ou un petit peu les doutes que je pouvais avoir sur le leader qui était Joel Embiid. Et je suis persuadé que le fait d'arriver 6, 7e, 8e seed, bah écoute, ça va être plutôt bien pour lui. Il va arriver peut-être au moins sur le premier tour sans pression parce qu'on est habitué à craquer Joel.
Ouais, ouais, clairement, Craquette Joël, je te
Craquette Joël qui n'a rien à voir avec Porte de la Chapelle. Hein.
Craquette.
Pas encore, craquette, pas encore, voilà. On lui souhaite pas ça, évidemment. Le pauvre,
t'imagines, ouais. 2m13.
From the NBA to the street. Non, mais je te rejoins complètement, mais cette équipe, elle est pour la première fois bien construite autour de lui, on l'a dit toute la saison. C'est une équipe qui nous a fait kiffer sur la première moitié de saison régulière. C'est une équipe qui est attrayante, qui développe un bon jeu, qui défend, qui court et tout ça. On a été quand même été vachement frustrés du niveau de cette équipe sans Joel Embiid. On aime bien dire quand même qu'une bonne équipe, c'est une équipe qui peut jouer sans sa superstar. Évidemment, pas être à 70% de victoire.
On a vu avec les Timberwolves qui ont perdu Carl Anthony Towns, par exemple, bien et qui ont maintenu des résultats très hauts.
Absolument, absolument.
Carl Anthony Towns, c'était pas le MVP, c'était pas le meilleur joueur de l'équipe.
Non, c'est incomparable.
C'est pas exactement la comparaison.
C'est comme si Denver perd Jokic.
Ah ouais, voilà, c'est ça. On est plus là-dedans.
Ça, c'est clair. Bon, en tout cas, j'entends. Il n'empêche qu'on était clairement déçus par le niveau de jeu, par le nombre de défaites, de la chute, mais complètement dingue de cette équipe au classement. Et là, juste avec son retour, l'annonce de son retour, l'équipe s'est remise à gagner, première chose, et s'est remise à avoir le même visage que sur la première moitié de saison. Et ça, c'est la meilleure nouvelle pour les hommes de Nick Nurse. Il y a quand même un truc, tout à l'heure, je disais aux gars, je vous pose la question à vous, combien de match à jouer Joel Embiid cette année. Bah, oh non, mais regarde pas. Non, mais
il est à l'heure.
Je sais pas, 45.
45, il a joué 38 matchs le mec.
Ouais, putain.
C'est incroyable, incroyable comme il a pas joué en fait cette saison tout simplement. Regarde, t'as vu ce qu'il a fait, il a regardé, je t'ai posé la question, il a regardé.
C'est pas encore le quiz, c'est pour donner des infos. D'ailleurs, en plus je suis sur le Gameloc donc ça me donne pas le nombre de matchs qu'il a joué. Par contre, il a joué 4 matchs depuis son retour, 24 points, 29 points, 30 points, 37 points. Alors, il y a un petit bémol, c'est les ballons perdus quand même. Hein. Il a eu 5 ballons perdus, il en a perdu 8 contre Memphis. Mais on a l'impression que Joel Embiid monte en régime, match après match. T'as raison, on retrouve ce système de jeu autour des Celtics et autour de ce monstre de basket de Sixers qu'est Joel Embiid. Est-ce que vous le voyez redevenir aussi dominant que ce qu'il était avant sa blessure?
Aucun doute pour moi. Physiquement, ouais, je pense qu'ils n'ont pas pris de risque quand tu as un animal comme ça. Lorsque tu le remets sur le terrain, que tu lui donnes des minutes, il a mine de rien. Il n'a pas commencé avec 14 minutes, hein, il a commencé quand même avec un bon temps de jeu. C'est qu'ils avaient quand même des certitudes sur sa capacité physique. Là, il va revenir, il aura fait quoi, 6-7 matchs avant les playoffs ou play-in. Mais c'est top, c'est top.
C'est suffisant pour l'imaginer à 100%. Pense,
bah alors, pour moi, à 100% ou en tout cas à 95% et qu'il puisse monter tranquillement, en tout cas physiquement. J'ai pas tellement de doutes physiquement sur ce qu'il va pouvoir apporter sur son jeu et puis voilà, il est tellement tellement talentueux, tellement dominant, j'ai pas de doute.
Moi mon petit doute c'est que autant on sait qu'en NBA quand tu reviens t'es prêt à jouer,
ouais.
Voilà, on le dira, faut qu'on le répète ou qu'on le martèle, mais nous en Europe on a l'habitude, tu t'es fait une entorse, tu reviens, t'es à 80% et puis tu te réathlétises. En NBA normalement tu viens, tu joues, à part si t'es en playoff, tu sais que t'es prêt à jouer, donc ça t'as raison, je te rejoins complètement. C'est pas que je suis inquiet, je dis juste que je me pose la question de son physique, parce que je le disais dans une autre émission, cette saison 2023-2024, elle m'a permis de comprendre un truc, c'est que Joel Embiid, son corps ne lui permet pas de supporter le rythme d'une saison NBA. Vraiment, je crois que...
Alors, et,
donc, vraiment,
non, je comprends.
Tu vois ce que je veux dire?
Je comprends parfaitement.
Et, mais ça marche encore plus avec les playoffs. C'est pour ça qu'il n'a jamais réussi, parce qu'il n'est jamais allé loin aussi, hein, mais à enchaîner une série de playoffs, enfin des séries de playoffs, à 100%, sans souci de ventre, sans maux de tête. Il est ce mec-là, pour l'instant. Donc à lui de nous faire mentir tous ceux qui pensent ça, mais pour l'instant, il est ce mec, il n'est pas fiable physiquement.
Pas convaincu, Arthur. Ouais.
Non, si, je suis complètement d'accord avec lui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas fiable physiquement aujourd'hui, comme il n'était pas autant qu'il n'était pas fiable physiquement au bout de 20 matchs. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas l'impression que là, il est beaucoup plus fragile que lorsqu'on était au 20e match de la saison. Il est revenu, il est
ouais,
là, il
sûr.
A
ouais,
truc, mais que c'est effectivement ça reste un joueur sur lequel on a d'énormes doutes sur sa capacité à pouvoir enchaîner les saisons et enchaîner les matchs. De toute façon, il a fait quoi, 500 matchs en carrière en 10 piges. C'est ça montre
enfin,
ça
fait
montre
plus le personnage.
Thomas, il s'est exprimé Joel Embiid depuis son retour et il est plutôt rassurant et il explique un petit peu comment le process se passe.
Jouer, empiler le plus de minutes, dépasser les 30-35 minutes, je ne peux pas me permettre de faire beaucoup de choses les jours de repos car je dois limiter ma charge de travail, je dois utiliser les matchs pour ça.
C'est intéressant.
Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, mais sauf que ce truc-là, il aurait dû limiter ça, enfin se reposer les jours off. C'est un truc, si tu as compris le haut niveau, c'est dommage que tu t'en aperçoives à 28 ans ou à 29 ans. Enfin, je trouve ça. Bon,
c'est jamais trop tard. Mais si, arrêtez de manger des pizzas très tard. Hein. Non, mais c'est vrai.
On parle des Sixers, on parle évidemment, et on a commencé ce débat avec le retour de Joel Embiid. Mais moi, je voudrais qu'on fasse un point sur le roster. Parce que en l'absence de Joel Embiid, il y a eu quand même des ajustements côté roster chez les Sixers, avec notamment l'arrivée. Ben de Kyle Lowry, l'arrivée de Buddy Hield, ils ont très peu de vécu en commun, mais sur le papier, on voit que Nico est redevenu un titulaire au poste 4, il est très en forme Nico en ce moment. Les gars, sur le papier, Kelly Oubre fait une super saison, sur le papier, cette équipe-là, elle a vraiment le profil du poil à gratter, bien relou à jouer.
Mais plus que poil à gratter, quand tu vois le profil, le roster articulé autour de Joel Embiid et l'état de forme de Tyrese Maxey, et avec les autres joueurs, mais c'est une bête d'équipe. C'est une équipe qui doit aller en finale en fait chaque année lorsque tu vois le roster. Mais il n'empêche que moi j'ai toujours ces doutes sur l'élément central qu'est Joel Embiid, sur sa capacité, bon on en a parlé, à enchaîner les matchs, mais surtout à pouvoir être prêt dans sa tête. C'est un des seuls gars, je l'ai déjà dit la dernière fois, qui a des stats où t'enlèves 6, 7, 8 points entre ses moyennes en saison et ses moyenne en playoff. Alors il y a toujours des contextes, des blessures, des maux de tête, j'ai mangé un burger avant le match, j'en sais rien. En tout cas, quand tu vois cette équipe-là, le petit élément qui me fait dire que ça peut être un petit peu différent de l'année dernière, c'est effectivement le fait qu'on ait enlevé James Harden et que Tyrese Maxey soit finalement installé en numéro 2 sur à la création sur un profil extérieur et qui va peut-être pouvoir apporter une dynamique que n'avait pas
il va pas se cacher lui en tout
Harden,
cas,
il va pas se cacher. Donc c'est peut-être ça qui va, mais il n'empêche que j'ai toujours les doutes avec Embiid. Tant qu'il aura pas montré, moi j'ai du mal.
Est-ce que ces doutes autour d'Embiid, on peut un peu plus les minimiser parce que pour la première fois de sa carrière, il a un coach champion NBA avec lui aussi.
Ouais, c'est intéressant. Alors, je réponds vite fait sur le roster avant de répondre
il
à tout.
Il y avait Doc Rivers, du coup.
Il y avait Doc Rivers, donc ça marchait déjà.
J'avais oublié.
Ah, mais non, mais
Doc Rivers,
c'est pas marché comme ça.
Non, mais c'est Doc Rivers champion NBA, mais derrière, il a créé. T'as raison, Doc
Rivers.
Oui, non,
mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire.
Juste avant de parler du coach, pour revenir sur cette équipe, autant au début de l'année, moi, j'étais sûr que c'était pas une équipe qui pouvait aller au bout. Mais ils ont fait quand même beaucoup de changements intéressants sans trop perdre. Donc James Harden est parti, ça d'accord, remplacé par un mec qui était déjà dans l'effectif et par des gens autour. Ils ont la très bonne hiérarchie entre la superstar, un numéro 2 qui est très complémentaire, donc petit grand, la rapidité, l'adresse, le pick and roll, Maxey est vraiment complémentaire et ça c'est un truc qu'on va pouvoir apprécier pendant ce run de playoff. Mais ils ont aussi ajouté cette année tout ce qui leur manquait avant, ils n'avaient pas de shooter. Ils sont allés chercher Buddy Hield. Buddy Hield en playoff, est-ce qu'il est capable? On n'en sait rien, il n'a jamais fait les playoffs le mec. Donc ce sera intéressant de le voir. Mais en rajoutant de l'expérience, Kyle Lowry, Nico Batum, c'est très intéressant. Des athlètes, Kelly Oubre, etc. Enfin, il y a beaucoup. D'Anthony Melton qui est revenu là, il y a quelques temps, et qui est pas un bon titulaire, mais qui est un super remplaçant dans une équipe. Tu vois, il y a beaucoup de bonnes choses entre expérience, petit, grand.
Covington.
Ça, t'as dit
Robert Covington.
Robert Covington, absolument, mais qu'on n'a pas revu depuis quelques temps là.
Qui va revenir là.
Okay. Qui va revenir, mais en tout cas, ça, t'as raison. Ça donne de la profondeur. Ils ont, à l'heure actuelle, pas le meilleur effectif de la conférence Est, mais je les mets facilement troisième. Et en soi, bon, derrière les Bucks, bien sûr, et derrière les Celtics. Et en ça, c'est déjà une victoire. Donc, ensuite, ce sera une bataille de coach. Et là, je te repose la question. Erwan, est-ce que tu penses que Nick Nurse a ce qu'il faut, tactiquement, ce que tu as vu cette année, pour un jour faire un upset? Parce que c'est ça la question. Faire un upset face aux Bucks ou face aux Celtics?
J'ai envie d'y croire, en tout cas. J'ai envie d'y croire. Ce qui nous a sauté au visage sur le début de saison des Sixers, c'est, oui, le niveau de jeu de Joel Embiid. Mais tu l'as souvent dit, et tu avais raison, c'est aussi le meilleur effectif que Joel Embiid, ou le plus adapté que Joel Embiid ait eu depuis qu'il est en NBA. Mais je ne peux pas m'empêcher de décorréler ça du coach. Pour moi, c'est aussi la vision de Nick Nurse. Moi, ce que Nick Nurse avait fait quand il prend les Raptors derrière Dwayne Casey, ben oui, il y a Kawhi qui arrive, mais il en fait aussi une équipe de champion NBA par des choix. Et je trouve que moi, cette année, j'ai bien aimé ce qu'il a fait autour d'Embiid. J'ai un peu moins aimé quand il n'était pas là. Je trouvais que là, pour le coup, il y a eu par moment une forme d'abandon tactique où ils ont subi un petit peu les choses par un effectif certes un peu réduit parce que t'as pas ta superstar, mais aussi tactiquement, ils auraient pu tenter des choses. Mais
ils ont remplacé Joel Embiid par Paul Reed.
Voilà.
Aussi, hein.
Ouais, ça, c'est...
Non mais sans blague.
Je me lance pas sur Paul Reed.
Je te lance pas, mais enfin ils ont remplacé Joel Embiid par Paul Reed.
Je pense, j'ai envie de croire, et je serais pas surpris que Nick Nurse puisse faire un coup de Trafalgar sur ses playoffs et créer un upset.
Tu dis quoi toi là-dessus?
Non, je pense que c'est faisable parce que une nouvelle fois j'ai dit là ils arrivent, ils auront pas de pression, ils auront pas l'avantage du terrain. Joel revient de blessure, donc politiquement tu pourras toujours t'en sortir sur tes déclarations, etc. Et on sait qu'il est coutumier du fait. Mais là si on parle d'aller en finale parce que c'est le débat ou d'aller vraiment loin, bah une fois qu'il y aura un tour qui sera passé, deux tours si ça le fait, bah, je pense que la pression, elle va être trop grande et que ce gars-là, pour l'instant, il n'a pas encore les épaules. Et tu vois, même là, ça déclasse sur reposition. Je sais pas, je sens trop que sa mentalité est poreuse et fragile sur tout ça. J'ai vraiment du mal.
Alors, on va voir. Tiens, Thomas, cette déclare.
Ouais, c'est Joël Embiid encore une fois. Hein. On se fiche de la place à laquelle on va finir. Évidemment, je préférerais éviter le play-in, mais on y est pour l'instant. Et si ça se confirme, ça ne change rien. L'objectif, c'est de gagner tous les matchs. Donc, peu importe le classement, je trouve qu'on a nos chances. Moi, je trouve que cette déclare, elle a aucun sens. Pour moi, ça change absolument tout qu'il soit sixième. Si tu passes par le play-in, t'es soit septième, tu joues contre les Bucks au premier tour, soit contre les Celtics, et tu joues donc tu es au huitième et tu joues contre les Celtics. Comment tu peux dire que ça va pas changer grand-chose? Alors oui, c'est de la com, mais ça change absolument tout parce que ton gars, ta star, n'est pas encore à 100%, il faut qu'il joue des matchs. Donc évidemment que si t'es sixième et que tu joues, même sans l'avantage du terrain contre les Knicks, ça donne quand même des chances, mais démultipliées, de passer le premier tour et donc de te restructurer, d'aller rechercher des certitudes. Si tu joues contre les Celtics, franchement, ça va être chaud. Contre les Bucks, si Yannis est en bonne santé. Mais tu vois ce que je veux dire, mais ça change absolument tout le classement.
Donc toi, c'est le timing. Le timing de Joël, de centrer une nouvelle fois autour de lui.
Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être un expert et d'avoir un BE, un brevet d'État, et d'avoir coaché en Pro B pour dire que vaut mieux jouer les Knicks sans Julius Randle et qui joue à 7 plutôt que prendre les Celtics en pleine bourre et les Bucks qui, malgré tout,
restent les Bucks. C'est pas que vaut mieux, parce que oui, t'as raison, vaut mieux. Moi, je dis que leur run de playoff dépendra de leur classement de fin de saison régulière. Ouais, ouais. C'est pas genre juste ah, s'ils sont 7e ou 8e, ils peuvent faire l'upset et tout.
Ils doivent passer devant les Pacers.
Mais ils doivent absolument tout faire pour finir 6e. Mais c'est gros, ça change absolument tout dans l'histoire qu'il y aura cette saison, parce que il y a les épaules, il y a le physique, enfin, il y a absolument tout qui va changer pour eux s'ils affrontent pas l'un des deux.
J'aimerais revenir sur l'aspect mental, Joel Embiid, et t'as raison, parce qu'aujourd'hui sur le basket, on a rien à lui reprocher, c'est un joueur extraordinaire ce qu'il a fait sur le petit échantillon de cette saison, il nous a tous bluffé. Mais le fait qu'ils soient entouré, je le répète, de Nick Nurse, qui est un coach récemment champion NBA, qui est Kyle Lowry, qui lui aussi est récemment champion NBA, qui est un mec comme Nico Batum, qui est un stabilisateur, qui va lui mettre les ballons, qui va jouer juste. Est-ce que c'est pas aussi ça, de passer franchir des caps aussi psychologiques, c'est d'être entouré de mecs rassurants? Ce qu'il n'avait peut-être pas avant entre Ben Simmons ou James Harden.
Ouais, quand il y avait Ben Simmons et James Harden, on louait la complémentarité qu'ils avaient, le fait que James Harden pouvait apporter du spacing et de la création sur le poste extérieur, qu'il connaissait le chemin pour aller au moins en finale de conf. Donc, c'est des questions. On était aussi rassurés l'année dernière et les autres années avec les autres profils. Donc voilà, moi, l'idée, c'est pas de le démonter, c'est juste de se dire que.
C'est bon, d'avoir des doutes.
D'avoir des vrais doutes sur tout ce qui s'est passé. Et puis, de toute manière, une nouvelle fois, hein, s'il va en finale, il nous aura fermé la bouche et bravo à lui. Mais ce que je veux dire, c'est que là, j'ai du mal. Alors oui, en tout cas, les Sixers ont bossé pour lui donner des meilleures conditions pour pouvoir s'épanouir. Ça, il n'y a rien à dire. C'est parfait. Franchement, quand tu vois l'équipe, c'est top, même au niveau du coaching et tout. Mais voilà, tout à l'heure, tu parlais de bataille de coach et tout. Oui, oui, mais après, sur le terrain, bah, si tu tournes à 23 points et 9 rebonds au lieu d'être à 35 et 14, bah, ça ne va peut-être pas être le même résultat. C'est tout.
Bah oui, je suis plutôt d'accord. Je ne suis pas sûr que Nick Nurse soit capable de faire un upset.
Tu vois, ah bon?
Oui.
C'est pourquoi?
Mais même
parce
sur un Indiana?
Parce que.
C'est pas un upset, du coup.
Moi, pour moi, ils sont troisième dans ma tête. Hein.
Contre les Knicks, excuse-moi.
Mais pour moi, même s'ils ont pas l'avantage du terrain, ils sont sixième et tout, c'est un faux sixième. Enfin,
ça reste un upset techniquement, quoi.
Ok, bah, oui, okay.
Mathématiquement.
Toi, tu parles de taper un des deux premiers.
Bah, bien sûr,
okay,
moi, il est là, l'upset. Attendez, s'ils perdent contre les Knicks, c'est une catastrophe, les gars. Attendez,
pour moi, l'upset des Sixers. Bon, si hyper chronique, c'est pas une catastrophe. Encore une fois, faudra voir la manière. Mais pour moi, l'upset, j'accorderai le mot upset aux Sixers que si c'est les Celtics ou les Bucks.
Okay,
attendez, mais là, ça m'intéresse, là. Pour vous, là, aujourd'hui, même si il a raté la moitié de la saison, les Sixers sont pas grands favoris face aux Knicks dans une série?
Non, mais
genre grand favori, hein. Moi, ils sont grands favoris.
Tu chies beaucoup. Et sans t'essuyer, en plus, sur Jalen Brunson.
Mais c'est pas la question, tu vois. Parce que, attends, mais ça marche pour toutes les autres équipes de la conférence Est. C'est-à-dire que les Sixers, on parle de pression.
Sur la troisième force.
Mais de loin, les gars. Enfin, ils ont pas eu leur meilleur joueur MVP l'année dernière pendant la moitié de la saison. Bah oui, ils sont descendus. Bah ouais. Mais ils sont largement plus forts. Enfin, largement.
Non, mais là.
Ils sont plus forts que les Knicks, ils sont plus forts que les Pacers. Ils sont plus forts.
Soyons factuels. Aujourd'hui, les Sixers qui récupèrent Joel Embiid, qui sont au complet.
Tout à fait.
Tu joues les Knicks, troisième, super saison. Jalen Brunson, on t'aime, t'es un commandant, t'es un général. Bon, t'as pas Julius Randle, l'autre Thibodeau, il fait jouer Bogdanovic des 8 minutes par match et il joue à 7. Ben oui, les Sixers, face aux Knicks, même avec un avantage du terrain, pour moi, sont favoris.
D'accord, mais ça marche pour le Magic, ça marche pour les Pacers.
Oui, ça, c'est la troisième force.
Voilà, ok.
Le classement ne le montre pas et on connaît les raisons. Mais par contre, aujourd'hui, les Sixers, play-in, pas play-in, sont la troisième force de l'Est.
Mais alors, du coup, pourquoi tu me dis que quand je dis s'ils perdent contre les Knicks, c'est une catastrophe, pour toi, c'est ok. Genre là, tu vas me dire la manière et tout, mais si tu perds sur un match 7 à New York, contre les Knicks sur cette saison-là. Enfin, je suis désolé, mais moi, si j'étais fan des Sixers, je serais mais catastrophé. Rassurez-moi, les gars.
Vu la manière dont ils ont réussi à s'échapper sur leur déclat à toutes leurs éliminations, ils diraient bon bah ouais, il est revenu 4 matchs avant.
Il y a plus les mêmes gonzes. Moi, je suis curieux d'avoir des déclats de mecs comme Kyle Lowry qui ont été champion NBA, de Nick Nurse qui a été champion NBA. Je pense que Doc Rivers, dans ses déclats qu'il a pu avoir, ou je pense pas à Coach Brown qui était juste là avant, qui bon, il est gentil, mais il connaît l'autre. Ça fait des années.
Brett Brown,
Brett Brown, ça fait des années que Doc Rivers qui en déclat, il sait trouver des excuses, il sait où ça. C'est un vrai politicien. Moi, je pense que Nick Nurse, c'est un mec proche du terrain, proche de ses joueurs, et que là-dessus, il n'y aura pas d'échappatoire en disant oui, mais bon, c'est pas ma. Je pense pas. Vraiment, moi, je vois un mec, un vrai coach qui assume dans les bons comme dans les mauvais moments.
Ouais.
Mais oui, là, je te rejoins, c'est que pour moi, c'est la plus grande force. Alors oui, les Knicks, parce que troisième, ils font une belle saison. Pour moi, sans Randle et avec le coaching de Thibodeau, qui même sur la fin de saison régulière continue à jouer à 7.
Bon, bah voilà, donc on est d'accord que les Sixers qui perdent le premier tour, c'est une catastrophe. Moi, pour moi, il faut un peu penser aux Lakers de l'année dernière, c'est-à-dire que leur classement ne reflète absolument pas leur niveau réel à partir du moment où ils sont au complet. Donc, perdre au premier tour pour les Sixers avec tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, bah oui, c'est une cata et ça marche pour les Knicks, pas les Knicks, on s'en fout des Knicks en fait. C'est juste là les Sixers et comment je me projette sur eux. C'est pour ça que je disais que leur classement, il va changer absolument tout. Parce que perdre au premier tour, factuellement, c'est catastrophique. Au vu du premier mois de compétition, si tu perds contre les Celtics, si tu perds contre les Bucks, bon bah bien sûr que t'as pas la même lecture que si tu perds contre le Magic ou contre les Knicks.
Les Sixers, il leur reste, j'y arrive, il leur reste deux matchs, Orlando, pas cadeau, faut le prendre.
Il faut absolument le prendre.
Et après Brooklyn qui sont déjà en vacances. Donc t'as raison là-dessus, mais t'as raison, faut qu'ils finissent sixième. T'as raison complètement. Maintenant, on vous a demandé à vous aussi si vous pensiez que les Sixers pouvaient aller en finale cette année. Et du coup, avant d'aller dans les commentaires, on va prendre la cote Winamax. Tom, peut-être que je te mets un peu dans le jus, mais j'aime bien qu'on ait d'abord les cotes Winamax, Thomas, pour voir la chance que leur donnent les bookers les bookmakers plutôt, d'aller en finale NBA.
Absolument, dans la conférence S donc, on vous a mis les 6 équipes qui ont le plus de chances de passer la finale. Donc les Celtics sont largement favoris, 1,60. Les Milwaukee Bucks sont deuxième, 5. Et donc les Sixers, comme on le dit depuis tout à l'heure, largement la troisième force de ce plateau-là, où les Cavs, le Heat et les Knicks sont cotés à 15. Mais c'est exactement ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même un écart, d'après nous, entre tout ça. Donc si vous croyez aux Sixers, ça se passe là-dessus. Du coup, je vous repose la question parce que personne n'y a répondu, je trouve.
De quoi ?
Est-ce qu'ils vont aller en finale ou pas ?
Mais moi, je pense qu'ils ont une chance.
D'accord.
Ils ont une chance d'y aller pour toutes les raisons qu'on vient de faire. Je pense que Joel Embiid, pour moi, j'ai envie d'y croire jusqu'à que je vois peut-être l'inverse, mais j'ai envie de croire qu'il a franchi un cap psychologique. C'est juste de la supposition, mais en tout cas, quand je vois ce qu'il a fait cette année, je trouve que le titre de MVP de la saison dernière, même s'il y a eu des playoffs qui ont été énormément frustrants, je trouve que c'est devenu un autre joueur en un an. Il y a eu cette blessure-là, mine de rien, il va arriver frais aussi. On peut en parler de ça. Il va arriver frais pour les playoffs. Il est mieux entouré, que ça soit basketement parlant ou psychologiquement, avec des joueurs qu'on connaît d'autres choses. J'ai envie d'y croire. C'est pas les favoris, c'est la troisième option de l'Est, donc ça veut dire qu'il y a deux équipes devant. Mais j'ai envie de croire vraiment. Je serais pas méga surpris qu'ils arrivent à accrocher un spot en finale. Souviens-toi, Thomas, je l'ai souvent dit, quand Joel Embiid marchait sur la ligue en novembre, décembre, janvier, je disais, mais moi, avec ce Embiid-là, ils peuvent aller en finale. Et depuis, en plus, tu as rajouté des assets qui fitent encore mieux avec ce groupe-là.
Donc, s'ils sont sixième, ils tapent, admettons, New York. Le Knicks, après, ils jouent les Bucks, et après, ils jouent les Celtics pour aller en finale. Alors, tu en dis quoi,
de toute façon, pour aller en finale, il faut...
Tu peux avoir de la chance, les Bucks se font sortir par Miami.
C'est archi bête. En plus, quand j'ai vu la cote à 15, j'ai dit Miami,
Souviens-toi quand les Celtics vont en finale, le parcours qu'ils ont, quoi.
Ouais, je sais, mais je remets juste du contexte pour que vous puissiez répondre, parce que ça m'intéresse d'avoir vos avis. Erwan y croit, c'est ça que je retiens.
Moi, j'y crois, mais j'y crois depuis le début.
Moi, j'y crois pas.
Ouais, tu crois
trop
pas,
non, j'y crois pas, trop de doutes, c'est tout. Enfin, ouais, j'ai déjà suffisamment dit trop de doutes.
Les adversaires ont tellement plus de certitudes à un moment donné. Mais rien que les Celtics.
Alors,
que...
d'accord, les Celtics, ils ont des certitudes. Mais les Celtics, on l'a dit ici, et tant qu'ils ont pas gagné, on aura des doutes.
Ouais, non, mais pareil. Hein. Non, moi, j'ai des gros doutes pour les Celtics aussi. Hein,
là,
mais...
c'est aller en finale NBA. Voilà. Alors, en finale NBA, ils l'ont déjà fait. Hein.
Alors, attends, les Celtics, tous les feux au vert, saison énorme, meilleure attaque, deuxième meilleure défense, les Celtics, très bien.
Son favori.
Oui. Derrière les Bucks, me dis pas qu'il n'y a pas de doute sur les Bucks. Les Knicks, bravo.
Mais arrête de parler des Knicks, Erwan.
Mais je fais un étalage. Les Knicks, gros cœur, bravo, Jalen Brunson, il joue à 6. Même à une 3, tu ne peux pas jouer à 6. Donc, pour moi, donc en fait, parmi toutes. Mais les cons, celui-là, tu sais qu'ils font partie de la NBA, donc j'en parle.
Tout le temps, tu en parles tout le temps.
Les Pacers, pour moi, ils sont pas invités à ce niveau-là. Le Magic, c'est une équipe jeune qui va découvrir les playoffs.
Et Miami, n'oublie pas Miami.
Et moi, Miami.
Oui, alors, Miami, t'en parles jamais.
Je les attends au virage. On va pas comparer la saison de Miami à celle de New York, quand même.
Gros, ouais, Butler, il est dans la salle du temps, là.
Ah oui, gros.
Il va tourner à 47.
J'espère pour lui parce que l'édito, il est déjà écrit. Mais en fait, des doutes. Mais vous avez, t'as raison, Arthur, sur les doutes des Sixers. Mais en fait, il y a des doutes sur toutes les équipes,
mais
pas qu'un peu.
De ouf, mais sauf que allez,
le premier tour, pas de doute, c'est les
Nuggets. C'est pour ça qu'ils vont pas le faire.
C'est les Nuggets.
Les Nuggets, pardon.
Ouais, on est d'accord sur toute la NBA, ouais, on est d'accord.
Ça, c'est donc voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Moi, j'aime ce côté, il a été blessé longtemps, il a très peu de vécu avec Hield et Calorie par exemple, mais il y a toutes les autres équipes et des équipes qui peuvent Sixers, Bucks, Celtics, ça peut aller en finale, ça va aller certainement en finale, mais il y a des doutes aussi. Donc finalement, doute contre doute, pourquoi pas. Et t'as un mec qui est un joueur supérieur, c'est Joel Embiid.
Non, mais ça s'entend clairement.
Bon, en tout cas, alors je réponds moi aussi à la question, je crois pas qu'ils le feront, parce que comme vient de dire et comme on le dit depuis tout à l'heure, il y a des doutes, mais il y a surtout des choses que je n'ai jamais vu faire cette équipe et leur superstar en premier. Donc un truc tout simple, hein.
Jusqu'au jour où
jouer 2 mois et demi au basket, je l'ai jamais vu faire ça. Voilà, donc
ah, si il se blesse en playoff, honnêtement, ça.
Donc, quand il va se blesser en playoff.
Alors, non, on va pas lui souhaiter, hein, on touche du bois. Mais la lecture, elle sera complètement différente ensuite sur le suite de sa carrière. Et c'est vrai que ta théorie, qui pour l'instant se tient, c'est qu'il ne peut pas enchaîner 2-3 mois de compétition.
Ouais. Et encore avec l'intensité des playoffs. Et le dernier truc, pourquoi il faut absolument qu'il finisse 6e ? Si tu finis 6e, t'as une semaine.
De repos.
De préparation.
De prépa. Oui, parce qu'ils vont pas aller à Hawaï.
De préparation.
On va prendre les commentaires un petit peu parce que c'est passionnant, mais vous dites un peu de la merde. Et on va aller voir nos amis de la communauté. Qu'est-ce qu'ils nous racontent, Thomas?
De l'anneau. Alors, on y va. Est-ce que Joël Embiid peut viser le titre cette année? Zekiel qui nous dit, le retour de Embiid est un vrai motif d'espoir, surtout que je le voyais pas revenir avec autant de rythme. Mais le vécu du groupe risque d'être un peu court et Joël va peut-être avoir un contre-coup avec l'intensité propre au play-off. La finale de conf paraît être le plafond pour cette année. Ce qui serait une progression, il l'a jamais faite, hein.
Clairement. Ah, on l'a jamais fait. Triangle l'a fait, pas lui.
Incroyable. T'as raison, ouais. Victor. Ah, bah, il est là dans la salle et en même temps, il fait les commentaires. Bravo, Victor. Je leur souhaite, mais j'ai envie de dire non. Je pense que c'est même pas le meilleur effectif qu'ils aient eu pour aller au bout. Intéressant. Je pense qu'ils pensent à l'année avec Butler, peut-être. Bref. Ils me font penser aux Clippers époque Lob City, capable de prendre 50 wins chaque année, mais des trous d'air dans les moments importants. À eux de me faire mentir. Il est un peu comme nous, Victor. Ouais, faites-moi mentir.
La seule grande différence, c'est qu'à Lob City, bah, ils ont plus le même coach, quoi.
Tout à fait. Et enfin, c'est Akram qui nous dit « Embiid est probablement la star avec Jokic qui a le plus d'impact sur son équipe. Les roleplayers comme Batum, Oubre, Hield ou, j'allais dire Elo, incroyable, Hield ou Melton auront beaucoup plus d'espace et ils sont capables d'être très adroits. Miami nous a prouvé l'an passé que c'était possible de surperformer. » Intéressant de
très
dire,
intéressant.
On l'a pas dit, mais qu'ils soient déjà à leur niveau, c'est bien, mais pour affronter les Celtics, les machins, faut surperformer. Sont-ils capables de ça?
Bien, c'est toute la question qu'on s'est posée. On a essayé d'y répondre. En tout cas, vous avez répondu un petit peu dans les commentaires qu'on a mis à l'antenne. Et n'hésitez pas, évidemment, à y répondre dans la section commentaires. C'est toujours intéressant. On vous lit et on peut échanger aussi avec vous. Voilà. Mais t'as raison. On va finir là-dessus. J'aime cette idée de, il faudra, quoi qu'il arrive, surperformer. On a vu Miami le faire 2 fois, ces dernières années. On a vu d'autres équipes surperformer aussi. Les Celtics, quand ils vont en finale, c'est bien, c'est carré, mais c'est une surperformance malgré tout. Donc, voilà. Pour faire des upsets, pour faire des surprises, il faudra surperformer. Embiid et les Sixers en sont-ils capables? On aura bientôt la réponse. C'est pour ça qu'on est surexcité en ce moment. Merci les gars, vous avez été excellents. On se retrouve la semaine prochaine. Non, pas du tout. Allez, j'étais le 7 ans d'émission, on a toujours pas le conducteur.
Allez, on passe à l'édito.
Il a toujours pas le conducteur en tête.
Charileux.
Ah d'accord, Polo ça l'a pas fait rire, il m'a mis une palette plein de gueule. Allez, tais-toi, allez hop, un petit générique.
Fois, ça, tu m'as régalé, Polo.
Polo, l'autoritaire. Hein.
Ah ouais, incroyable.
C'est pas moi qui étais dans les buts du PSG. Oh ah, t'as pas besoin de t'en prendre à moi, Polo. Hein.
D'ailleurs, ça tombe bien, on fait une palette sur la performance hier de Didier Donnarumma. On va bien se régaler.
Très bien. Bon, elle va pas durer longtemps. Hein.
Bah, si, justement, il y a plus de 3 buts à prendre. Alors, du coup.
4. Ok, si. Cette semaine. Je vais y arriver. Ok, si, cette semaine, 4 actions. Et comment ils ont rénové, réinventé un petit peu à leur sauce le pick and roll avec différents joueurs chaque fois impliqués.
Mais pick and roll, normalement, c'est un petit qui dribble et un grand qui pose l'écran.
Et voilà.
Et ben, OK, ici, c'est pas du tout ça. Parce
c'est pas Stockton Malone, ouais.
C'est pas Stockton Malone. Allez, on y va parce que c'est passionnant. Moderniser, ça, le.
Moderniser.
C'est bien ça. Allez, première action, on va se la regarder ensemble. C'est contre les Warriors. Ça se passe du côté de San Francisco. Une belle action et un beau dingue pour Shuttlecraft. On y retourne. Shea, hein, c'est important de commencer par lui, porteur de balle, avec un bon spacing. Hein, Josh Giddey et Steph Curry qui le laisse très très loin. La position d'Holmgren aussi, les lignes de fond pour le spacing. Et le premier écran, Isaiah Joe avec, vous allez voir, cette tactique entre guillemets qu'on voit de plus en plus en NBA. Isaiah Joe va poser l'écran, ça provoque le switch, Podziemski va défendre sur Shea, donc voilà, switch entre Wiggins et Podziemski, donc on choisit le défenseur, mais surtout c'est un espèce de slip, donc on pose pas vraiment l'écran, on se barre direct pour faire de l'espace. Bon, Shea, balle en main, vous le savez tous, c'est un mec qui pourrait être MVP, il est indéfendable. Wiggins se pose la question, est-ce que je viens un peu plus en aide? Bah non, parce qu'il y a Isaiah Joe qui tourne à 42% à 3 pas cette saison, donc il faut quand même rester plutôt sur son adversaire, loin du ballon. Shea accélère, Kevon Looney arrive en aide. Hein, pour l'instant, tout est OK. Mais Shea est un joueur formidable. Regardez le déplacement de Chet Holmgren. Ça, c'est des actions qu'on voit de très nombreuses fois maintenant. Le grand qui coupe, le bon timing, la bonne passe dans la ligne de fond, enfin sur la ligne de fond plutôt, et le dunk autoritaire de Chet Holmgren.
Moi, j'aime bien cette idée de slip qu'on voit de plus en plus, qu'on voit beaucoup chez le Paris Basketball aussi, avec Nadir Hiffy qui vient poser ce kind of faux écran,
même pas écran en fait. Hein, ouais.
Et puis surtout, moi, vous avez joué avec moi à Malakoff, vous le savez, moi j'adore les mecs oublier ligne de fond. Ça, c'est quand même le truc le plus ouble, le plus relou à défendre, c'est les mecs qui se font oublier ligne de fond. Et O'Kessy le fait à la perfection.
Dans le dos de la défense.
Dans le dos, oui.
Dans le dos de la défense. Deuxième, on a 4 attaques, hein, comme toujours, on va aller sur la deuxième. On y va tout de suite. Et Arthur, tu pourras en discuter. Du pick and roll un petit peu plus basique, mais c'est pas ça qui nous intéressait, c'est la suite de cette action qui nous régale. On y retourne. Donc, Shea à la balle. C'est encore une fois Isaiah Joe qui va se démarquer. Le pick and roll central classique, hein, de la NBA. Donc là, pour le coup, un petit et un grand sont dans l'action. On regarde aussi le spacing à l'opposé avec Lou Dort, notamment, et Jalen Williams. La prise à deux et la passe rapide, la confiance de Shea pour ses coéquipiers. Là, Shuttlegram, il a beaucoup d'options. Il y a cette espèce de 3 contre 2 qui se met en place. On se souvient de Boris Diou qui avait été fantastique avec les Spurs en 2014. La Shea, bon passeur, a plusieurs options. Donc, Lou Dort à l'intérieur. Mais regardez la défense là qui revient et qui va resserrer. Il va faire le bon choix puisque Jalen Williams se déplace. Déplacez-vous loin du ballon, les gars. C'est important. Jalen Williams va recevoir cette bonne passe donc de Chet Holmgren. Et là, tir ouvert. Oui, mais OK, ici, cette année, c'est du drive and kick à foison. Jalen Williams continue. Il a passé son défenseur sur le close-out. Et là, derrière, la bonne vision de jeu aussi est à souligner, Arthur. Jalen Williams a vu le déplacement de Chet Holmgren qui va finir dans le cercle. Ce qu'on voulait mettre en avant là-dessus, c'était le fait qu'ils insistent, même après pick and roll, sur des fixations, même après des close-out.
Ouais, et ça montre surtout que c'est une équipe où les joueurs ont confiance les uns envers les autres. Tout simplement, l'extra passe. Mais même si on a un tir qui est ouvert, on essaie d'aller un petit peu plus loin pour trouver encore un meilleur tir. Donc bravo à OKC et puis bravo à la polyvalence de leurs joueurs.
Mais on va le voir dans les autres actions, on les a vus sur les deux premières. Moi je trouve que les 5 joueurs ont un rôle important, même ceux qui ne touchent pas la balle. Tout le monde est placé à un moment donné pour recevoir la balle. Du coup, ça fait que tous les choix défensifs, ils sont très compliqués. C'est-à-dire que si je fais ce choix-là, je donne plein layup et je vais donner un tir à 3 points. Et on va le voir sur le reste. Et c'est ça que je trouve archi intéressant. Peu importe qui joue le pick and roll, le placement, les 3 autres qui sont pas concernés, dans leur placement, sont toujours très justes.
Troisième action, on y va tout de suite. Donc cette fois-ci, c'est contre les Pelicans avec Jalen Williams. Important aussi dans tout ça, c'est qu'on vous a mis chaque action est portée par un joueur différent pour initier l'attaque. Donc Jalen Williams, donc on adore tout ça, le Scottie Pippen moderne, comme dirait Erwan, avec la pose d'écran de SGA. Et oui, il n'y a pas que des grands dans leur effectif qui sont capables de poser donc des pics. L'écran, donc, hop, il change au dernier moment. L'accélération, on regarde ce spacing. Toujours l'idée, là, de ce triangle sur la baseline. Jalen Williams va donc accélérer. Il y a peut-être des passes à faire, mais Jalen Williams va jouer pour Josh Giddey, qui est à la place de Chet Holmgren. On aime la polyvalence, tu viens de le dire, Arthur, et ça se voit dans cette action. Jonas Valanciunas, le grand, va venir en aide. Et là, l'avantage d'avoir un meneur de jeu baseline, c'est qu'il va te faire une passe main gauche exceptionnelle pour un grand tir ouvert. Erwan, quand je dis grand tir ouvert, il est vraiment tout seul. Hein.
Mais ouais, mais là, on a en fait un meneur de jeu qui est sur un poste 4-5 sur la ligne de fond, mais qui est très bon passeur. Et on a un poste 5 qui va être ouvert à 3 points et qui peut mettre dedans parce que c'est le basket moderne. Donc voilà, moi, c'est ça que j'aime. C'est qu'en fait, tout le monde peut tout faire. Et donc, ça rend cette équipe-là, j'imagine, je me mets à la place des adversaires, à les scouter, ça doit être infernal. Ce qui est intéressant aussi, c'est la prise de vitesse de Jalen Williams sur le pick and roll qui est très haut. Ça lui permet de prendre de la vitesse et c'est très dur ensuite de défendre ça.
Et t'as vu aussi SGS qui fait, voilà. Il vient un peu sur la gauche. Au dernier moment,
exactement.
Il change.
Encore une fois, c'est un écran slip un petit peu, encore une fois.
Là, c'est un vrai écran pour le
voilà,
coup.
Mais,
là, c'est un vrai
mais prendre de la vitesse, à chaque fois quand t'as balle en main et derrière, tout est organisé.
Tu aimes la vitesse? Tu aimes Josh Giddey? Eh ben, écoute, quatrième action, on y va tout de suite. Parce que c'est encore une fois, donc, du pick and roll et du passing game qu'on adore. Oh, elle est belle, cette action, hein, contre la magnifique défense des Pacers. On y retourne. Josh Giddey, donc, avec la balle, avec cette histoire d'écran très rapide, Erwan. Hein, regarde, l'action a débuté depuis 2 secondes. On est à 22. Il y a un switch défensif, t'es obligé, mais la vitesse de Giddey, là, sur sa main gauche, t'es obligé de te faire battre, hein. Très difficile. On voit TJ McConnell qui vient tout de suite dans l'aide. Mais là, on aime ça. Cette espèce de Spanish. Alors, Spanish, normalement, tu fais un picker. Là, pour le coup, c'est juste un croisement avec Isaiah Joe qui remonte. Il est absolument tout seul. Là, le bon écran de Jalen Williams. Parce que dans la polyvalence d'OKC, il y a aussi le fait de faire un écran pour démarquer son coéquipier à l'opposé. Et ça, c'est très cool. Isaiah Joe pourrait tirer, honnêtement. Mais on l'a dit tout à l'heure, on va encore très très loin parce qu'il reste du temps. Il reste 19 secondes sur l'horloge des 24 avec cette passe magnifique pour Williams qui se retrouve comme à l'intérieur. Encore une fois, le poseur d'écran cette fois-ci est un ailier, ce qui te permet d'avoir beaucoup d'entrées et surtout beaucoup de sorties à la fin de ce système.
Ce qui est cool là-dessus, c'est qu'ils arrivent à avoir un lay-up, un tir à énorme pourcentage en 10 secondes.
Ouais, non, c'est clair. Bah écoute, une nouvelle fois, hein, là tu parlais du Spanish pick and roll qui normalement c'est un écran sur un écran. Là ils font juste le croisement parce qu'on va pas leur demander non plus 150 000 trucs, mais l'espace est fait. Il a le tir ouvert, mais une nouvelle fois on se fait confiance, on essaie d'aller un petit peu plus loin, on sait qu'on trouvera une solution. En l'occurrence, la solution elle est sous le panier, 2 points, et puis comme tu dis, très haut pourcentage. Donc bravo à eux, franchement ils vont être trop loin en playoff.
C'est ouais. Ce qui est bien, t'as raison de dire ça, c'est que là c'est évidemment des actions de saison régulière. Maintenant faut arriver à conserver cette structure d'équipe en playoff quand ça va moins vite, quand ça joue plus dur et tout ça. C'est l'enjeu. Donc ici dans cette fin de saison pour continuer à progresser. Mais bon, est-ce qu'on a des doutes? Marc Degnaud va être coach de l'année, enfin j'en ai aucun doute, donc ce sera cool à suivre.
C'est l'enjeu et c'est surtout la prochaine marche pour cette équipe là voilà, c'est comme ça qu'on apprend aussi, se construire, faire un play-in, faire une très bonne saison régulière derrière et puis après voilà, prendre en play-off. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon pour OKC, c'est une année de confirmation et d'apprentissage aussi, c'est le parfait mix, faire plusieurs choses à la fois, ils savent bien le faire. Voilà, on a une pensée aussi pour Gordon Hayward, on comprend toujours pas ce qu'il veut faire.
Sur le profil, il est parfait, hein, polyvalence, l'ailier.
Il y a le profil et puis il y a le terrain.
Oui, exactement. Mais attends qu'il mette un buzzer beater en playoff, tu vas voir.
Mais on lui souhaite. Il y a l'émission et il y a le quiz aussi.
Ah, c'est
maintenant. Ben non, j'annonce le quiz, ah, calme-toi.
Allez, qui dit fin d'émission dit quiz, et qui dit quiz dit Arthur Sen, je t'attends beaucoup, puisque le dernier Kelfac,
en fait, j'ai pas le droit à l'erreur.
Très mal vécu.
J'ai pas le droit à l'erreur. Une défaite, c'est bon.
Une défaite.
Une défaite, deux avec celle de Malakoff quand je suis venu.
Oh, c'est moi, j'ai perdu ce week-end.
Mais il a été bon.
On a beaucoup de blessés. Ils ont été vaillants.
Aïe, aïe, aïe. Il a été bon, Arthur. On a même pas parlé de ça. Combien t'as mis, Arthur?
Je sais pas.
J'ai ta feuille, 29 points.
Non, oh, la vache, pas. Ouais.
8 sur 9 à 3 points.
Ah ouais, vrai match, Arthur, bravo. Hein.
On n'a pas vu le même match. Hein.
Non, bon match. Bon, le qui suis-je d'aujourd'hui? Non, le quiz d'aujourd'hui. Des questions de rapidité, comme d'habitude, que nous a fait Aymen, comme d'habitude. Et puis derrière, le qui suis-je?
Pas de Kelfac?
Si, on en a glissé quelques-uns dans les questions de rapidité, mais on s'est dit pas de spécial Kelfac aujourd'hui. Arthur est plus récemment.
Les gens attendent que ça. Enfin, c'est
le peuple.
Les gens t'attendent, toi, arrête un peu. Vous êtes prêts?
Ouais.
Allez, qui est le dernier joueur à avoir gagné 2 MVP de finale de suite?
KD.
KD, ça
ouais,
parle.
Putain, ouais.
2017-2018. Qui est le meilleur score all-time gaucher?
Harden.
Harden.
Bah, bravo.
Qui est le numéro 2?
Ginobili.
Pardon.
Ginobili.
Ah, non.
Non.
Malone, il n'est pas gaucher, non?
Chris Mullin.
Non, un grand.
Et David Robinson.
David Robinson est deuxième. Quelle est la fac de Malachi Flynn?
Malachi Flynn.
Ah,
San Diego.
Ah ouais, San Diego, bravo.
En fait, il en a de Washington State, mais c'est San Diego qu'on va prendre. Qui a le plus de fautes techniques cette saison?
Draymond Green, non.
Non.
Ah bon?
Non, vu qu'il a été suspendu, il y en a un.
Attends.
Mais un mec aussi qui a du caractère dans une équipe à l'ouest.
Oh, c'est qui ça?
Un mec qu'on a vu cet été lors de la Coupe du Monde.
Luca.
Lucas est deuxième avec 13.
Ah, il est même pas premier de Draymond Green.
Il est à l'est.
Attends,
un Canadien, allez.
Dylan Brooks.
Ah, Dylan Brooks est premier avec 14. Quel joueur a le plus de triple double cette saison?
Luca.
Et Sabonis.
Sabonis, bien sûr. Quelle est la fac de Jabari Smith?
Alabama.
Ouais, je pense.
Auburn.
Auburn,
mais oui, c'était un A, bravo.
Il n'y a qu'un seul joueur qui a été champion deux fois depuis quatre saisons, les quatre dernières saisons. 2023, 2022, 2021, 2020. Qui est-il?
Attends, vas-y, répète.
Un seul joueur a été champion deux fois sur les quatre dernières saisons.
Un seul joueur a été...
Ah, si, je l'ai. KCB.
KCB.
Putain, j'ai la haine.
Allez, Erwan. Question. Erwan, pour toi.
Il a pour tout le monde. Je sais pas ce qu'il a.
Quelle est la fac de Chris Middleton?
Je l'ai pas.
Tennessee.
Texas.
Ah bon,
oh là là, c'est dommage que ça n'a pas commencé maintenant.
Combien de fois Jordan a été meilleur scoreur dans sa carrière?
8.
8.
9.
10, 10, 10, 10.
Ah, 10, 10, tellement 10, 10, 10, 10, tellement 10.
10. Mais qui a été le plus de fois meilleur scoreur depuis 2000?
KD.
KD, bravo. Wow, bravo. Bien, Arthur. Et le dernier, la fac de Devin Vassell.
Oh. Devin Vassell. Attends. Ah bah si, non, c'est pas Baylor, non. C'est... Non, Devin Vassell. Attends. Miami. Non. Florida State.
Bravo. Bravo, mon futur.
Florida State.
Voilà.
Bravo.
Belle rentrée dans ce.
Mais attends, Aaron, ça va?
Bah, j'ai pas les réponses.
T'es sûr ça va?
Parce que là, il y a eu des quelle fac au milieu, hein.
Mais non, mais ça, c'est de la merde. Ça, c'est pas des quelle fac.
C'est pas des quelle fac.
Ça, c'est des trucs du marché, ça.
Oui, voilà.
Erwan a beau traître. Moi, j'étais dans les soirées Strass et paillettes.
Et depuis. Depuis que t'as eu ton article dans... C'était quoi?
Dans le Télégramme. Ravi, j'étais content. Mon père était content, surtout lui qui a bossé au Télégramme à l'époque. Voilà.
Brestois et référence de la NBA. Il est beau celui-là.
Rien que ça. Du piston, du coup.
Non, même pas.
Il est parti à 40 ans, mon père, du Télégramme.
Vous êtes prêts pour le qui suis-je?
Ah ouais, on est là pour ça.
C'est moi, Erwan?
Amen.
Je suis né le 21 août 1987. J'ai donc 36 ans, comme le gars de la semaine dernière. Et je ne suis plus sur les parquets NBA depuis 2019. Et une dernière pige du côté de Toronto, ce qui me permettra d'obtenir une bague. Mais, commençons par le commencement.
Jérémy Lin.
Non. Oh. Je passe par la fac, et bon, cette fois-ci, je vais le dire parce qu'il y a des fois où je le dis,
ouais.
De Kentucky. Trois saisons, de 2006 à 2009. Lors de ma dernière saison, je tourne presque à 24 points de moyenne, avec déjà une arme qui se dégage, le shoot externe. Oh. Avec ces stats, je me présente à la fameuse draft 2009, mais mon profil n'intéresse pas vraiment. Je devrais attendre le second tour et le 41e nom pour être appelé par les Bucks. Me voilà donc dans le Wisconsin pour démarrer ma carrière.
Liggins?
Non.
DeAndre Liggins?
Non. Un shooter?
Non.
Donc Kentucky shooter. Et j'arrive drafté par les Bucks au second tour. Une carrière qui s'étendra sur 10 années avec 7 franchises de connues. Une carrière de journeyman. Mais revenons-en à ma première année. C'est rare, mais je vais jouer ma saison rookie dans deux franchises.
Patterson?
Non.
Oh la vache.
Milwaukee, le temps de 41 matchs. Puis Philly. À Philly, on flaire un potentiel. Lors de ma saison sophomore en 2010-2011, je deviens titulaire.
Spencer Rose?
Non. 28 minutes de temps de jeu en moyenne pour 10 points. Saison suivante, rebelote dans le 5. Deux saisons pleines à Philly. Mais là où vous devriez m'avoir, c'est dans ma prochaine équipe.
On n'a pas le poste encore.
En 2012-2013, je suis agent libre. Et je décide de m'engager avec les Los Angeles Lakers. D'abord remplaçant, je deviens titulaire en 2013-2014, Kobe étant blessé. Je deviens le troisième meilleur scoreur de la ligue, de l'équipe.
Wow,
15,7 points en moyenne sur la saison, avec une pointe à 42 points contre OKC. J'enfile le numéro 20.
En gros, je ne l'ai pas du tout.
Si vous ne m'avez pas là, moi et mon maître 93, eh bien ça se corse. Puisqu'après les Lakers, je pars à Détroit, deux saisons de 2014 à 2016.
Clinton.
Non.
Oh putain, c'est pas du tout fait qui c'est.
What?
Jody Mix,
yeah, Erwan. Bravo.
Ah bah oui, Jody Mix.
Eh oui.
Mais Kentucky,
Pige Orlando.
Bravo, Jody Mix.
Ottawa, Washington, bravo. Vous m'avez fait peur parce que vous l'aviez pas.
Washington, c'est North Carolina.
Ouais, bah
Jody
Mix.
Allez, voilà. Il parle pas. Moi, je parle quand ça c'est.
Jody Mix, bravo. Son crâne là. Il fout la haine. Il se fait snap.
15 points de moyenne.
C'est une belle carrière, hein. Je sais pas qui est.
Ouais, il s'est jamais installé
nulle part, mais bon, il avait des qualités.
Tellement avec un TG musculeux là.
Le gars, il tournait à 24 points à Kentucky à la fin.
Ouais, c'est la dernière saison. 24 points.
Et il draft le deuxième tour.
C'est la troisième année.
Ouais, ouais. Petit pourtant. Bon, bravo, hein, bravo, ouais, bravo Tom, bravo Erwan.
Bravo à tous pour cette émission. On s'est encore une fois régalé la semaine prochaine. Donc, nouveau First Day Show. Et on sera en plein play-in en plus. Hein.
Ah, bah là, clairement. Play-in, alors, fin de la saison régulière dimanche. Play-in, c'est mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, voilà, on sera au milieu du truc. Et puis, les play-offs commencent dimanche.
On va se régaler. Oh là, là, c'est le meilleur moment de la saison qui arrive. Soyez bien avec nous. On va donc, on se retrouve lundi pour la libre antenne. On se retrouve jeudi prochain pour le First Day Show. On vous dira un petit peu plus de choses sur notre prochain voyage à Dakar autour de la BEL. C'est comme ça qu'il faut penser la balle. Et puis voilà, on a encore plein de choses à vous annoncer. On attend aussi des réponses. Donc voilà, on vous aime. Merci pour la force. Merci mon tuteur. Merci yes. Tom. Merci plaisir. Toto. Merci à tout le monde en régie. Merci à Victor. Merci à Imen. Merci à Jérémy. Merci à Léo pour la palette qui nous régale à chaque fois. Et puis merci à notre chef, notre patron, notre dieu vivant, Paul Harrer. Voilà.